Formation biblique de disciples, cours numéro 16, le peuple de Dieu. Section 1, la famille de Dieu. Première partie, la famille de Dieu. En guise d'introduction, j'aimerais commencer par vous poser quelques questions. Comment la Bible définit-elle le royaume de Dieu? Comment la Bible définit-elle la gloire de Dieu? Comment la Bible définit-elle le dessein éternel de Dieu? En fait, la réponse est que ces termes ne sont jamais définis dans la Bible. Même les vérités les plus fondamentales que nous présentent les Écritures ne sont pas clairement définies. Vous ne trouverez jamais de définition à la gloire de Dieu, ni au royaume de Dieu, ni au dessein éternel de Dieu. Au lieu de cela, toutes ces notions sont décrites dans la Bible par d'innombrables métaphores. Par exemple, le Seigneur Jésus n'a pas défini une seule fois le royaume de Dieu, mais il l'a décrit par de nombreuses métaphores. Il a dit que le royaume de Dieu est comme un filet. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui cherche un trésor caché. Le royaume de Dieu est comme un grain de moutarde. Le royaume de Dieu est comme du levain. Il en est de même pour ce qui est de la gloire de Dieu. La Bible dit que la gloire de Dieu est comme le feu. La gloire de Dieu tombe du ciel. Il en est de même pour presque toutes les précieuses vérités bibliques. Il est très rare de trouver dans les Écritures une définition claire, concise et propre qu'on puisse attribuer aux choses de Dieu. C'est un fait troublant pour beaucoup dans notre culture occidentale moderne, parce que nous aimons pouvoir définir les choses. Nous aimons organiser les choses de Dieu, les ranger en catégories, établir des classifications et des schémas. Mais la Bible ne procède pas ainsi pour nous présenter les vérités fondamentales de Dieu. Elle se sert d'images et de métaphores. Et il y a à cela de bonnes raisons dont nous parlerons plus loin. Grand 1, les métaphores pour l'Église. Non seulement le Nouveau Testament ne définit pas les concepts du royaume de Dieu, de la gloire de Dieu, du dessein éternel de Dieu, etc. de manière claire, mais aussi on n'y trouve aucune définition de l'Église. De tous les passages où le Nouveau Testament décrit l'Église, aucun n'en donne une définition quelconque. Tout comme le royaume de Dieu, l'Église est décrite au travers d'un grand nombre de métaphores, d'images, tout au long du Nouveau Testament. On trouvera par exemple, en examinant les écrits de Paul, que celui-ci se sert de différentes métaphores pour décrire l'Église. Il dit que l'Église est comme un corps. L'Église est le corps de Christ. Elle est comme un corps physique. Il dit que l'Église est une armée. Il dit que l'Église est une épouse. L'Église est un royaume de prêtres. L'Église est une nation sainte. Ces métaphores ponctuent les écrits du Nouveau Testament. Or, je trouve que de nos jours, beaucoup de chrétiens pensent à l'Église avec une métaphore qui ne provient pas du Nouveau Testament. La métaphore dominante chez la plupart est celle de l'entreprise. L'Église est une grande firme. Le pasteur est le gérant. Les membres du clergé sont les hauts responsables. La stratégie commerciale se nomme évangélisme. L'assemblée est la clientèle. Et il y a de la compétition avec les concurrents du lieu. C'est une manière de voir l'Église. Nous avons construit dans notre christianisme moderne une nouvelle métaphore de l'Église qui viole les principes du Nouveau Testament. Mais c'est là un tout autre sujet que je ne vais pas aborder maintenant. À mon sens, la raison pour laquelle la Bible nous donne tant de métaphores pour l'Église, c'est que le sujet est trop vaste pour qu'on puisse l'expliquer par une simple définition. De plus, nous avons tendance à nous attacher à une métaphore particulière et à ne décrire l'Église que par elle. Ceux d'entre nous qui avons fait partie de mouvements de renouveau avons tendance à aimer la métaphore du corps. Cette métaphore, qui est bien une réalité, dépeint le fonctionnement de chaque membre. Elle nous montre la diversité unifiée des différentes parties de l'Église. Elle nous apprend que l'Église est dépendante du bon fonctionnement de tous ses membres. Mais si nous nous attachons à une métaphore particulière, que ce soit le corps, l'armée ou l'épouse, nous perdrons tout ce que nous décrivent les autres métaphores. Du coup, notre vision de l'Église sera au mieux limitée et au pire déséquilibrée. Grand 2, la métaphore principale. Je voudrais vous parler de la métaphore principale de l'Église que l'on trouve dans le Nouveau Testament. On en entend parler de temps en temps, mais dans le milieu évangélique aujourd'hui, on s'intéresse rarement à ce que signifie réellement cette métaphore dans la pratique, parce que beaucoup ont peur de ce qu'elle implique concrètement. La métaphore principale, la métaphore dominante pour l'Église dans le Nouveau Testament, n'est ni le corps, ni l'épouse, ni l'armée, ni le royaume. C'est la famille. La métaphore centrale, la métaphore la plus employée pour décrire l'Église, c'est la famille. Les écrits du Nouveau Testament sont saturés. Les écrits de Paul et de Jean sont ponctués par le langage et l'imagerie de la famille. C'est le langage de la famille qui domine chaque fois que Jean décrit l'Église. Il pourrait nous être profitable de considérer cette métaphore pour voir ce que Dieu a en vue pour l'Église en tant que famille et ce que cela signifie concrètement. Avant de nous plonger dans les détails, je voudrais vous lire quelques passages. Observez le vocabulaire de la famille. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Paul dit aux Corinthiens qu'ils ont beaucoup de tuteurs, mais un seul Père. Il continue, je vous ai engendrés par l'Évangile. Dans Romains, Paul résume l'intention divine en disant que Dieu cherche à nous rendre conformes à Christ afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 1 Timothée 5, versets 1 et 2. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Nous avons là l'imagerie et le vocabulaire de la famille. Paul dit que les croyants doivent savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu et désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Dans Hébreux, l'auteur dit que l'intention de Dieu est de conduire à la gloire beaucoup de fils et que Christ n'a pas honte de les appeler frères. Jean exhorte les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Dans ses lettres aux églises, Paul parle aux frères, un terme qui désigne aussi bien les frères que les sœurs en Christ. Il utilise ce terme plus de 130 fois dans ses épîtres. Comme vous pouvez donc le constater, le Nouveau Testament est rempli de l'imagerie et du langage de la famille. Et pourtant, la métaphore qui nous est transmise, implicitement du moins par notre christianisme moderne, est celle de l'entreprise, de la firme. Le plus souvent, ceux qui proclament que l'Église est une famille n'en mettent pas en œuvre les implications pratiques. En fait, ils ne se considèrent pas vraiment comme une famille. C'est pourquoi je voudrais examiner ce point avec vous. Je vais parler de cinq aspects, cinq caractéristiques de l'Église comme famille. Et avant de commencer, je vais parler un peu de ce que les sociologues nomment la famille dysfonctionnelle. La famille dysfonctionnelle est une des plus grandes plaies de la société actuelle. Ce sont des familles brisées. Bien qu'extérieurement elles puissent paraître intactes, ces familles sont intérieurement endommagées. Et c'est triste à dire, mais la plupart de nos églises modernes sont semblables à ces familles dysfonctionnelles. Dieu cherche actuellement à rétablir parmi les siens la vision de son Église, que l'Église soit la famille de Dieu dans tous les sens du terme, qu'elle vive comme une famille, qu'elle agisse comme une famille, qu'elle devienne littéralement la famille de Dieu. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Je voudrais donc vous présenter ces cinq aspects. Pendant que nous les examinons ensemble, posez-vous la question, l'Église que je fréquente vit-elle vraiment comme une famille? Est-ce que je vois les membres de mon Église comme mes frères et sœurs? Est-ce que je vis comme membre d'une famille? Tel est le défi qui se présente à nous. Si nous voulons accomplir le but de Dieu pour l'Église, nous devons nous poser sérieusement de telles questions. Nous devons demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je mets réellement ces choses en pratique dans ma vie? Sinon, qu'est-ce que je dois faire pour ajuster ma vie à ta volonté? Grand 3, les membres prennent soin les uns des autres. C'est le premier aspect dont j'aimerais parler. Parce que l'Église est une famille, les membres prennent soin les uns des autres. Dans une famille naturelle, si elle est saine, les parents ne s'occupent-ils pas de leurs enfants? Il serait impensable que les parents négligent complètement les enfants et les laissent se débrouiller par eux-mêmes, ou pire encore, qu'ils les abusent. Ce ne serait plus une famille. Elle pourrait en avoir les apparences externes, mais elle serait pour le moins dysfonctionnelle. Dans une famille, on prend soin les uns des autres. N'est-il pas vrai que vous vous occupez de votre sœur naturelle et qu'elle s'occupe de vous? Toute famille digne de ce nom prend soin de ses membres. Une famille dysfonctionnelle, au contraire, est égoïste, individualiste, et les membres agissent indépendamment les uns des autres. Dans une famille dysfonctionnelle, les membres ne se connaissent pratiquement pas et ne s'intéressent pas les uns aux autres. Jacques 2, versets 15 et 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ce passage nous montre vraiment ce que c'est que la foi. La foi sincère s'exprimera par des actes d'amour. Voilà ce que Jacques cherche à nous dire. Il dit, si vous dites que vous avez la foi, mais que vous négligiez vos frères et sœurs qui sont dans le besoin, alors votre foi est morte. La foi sans les œuvres est morte. Les œuvres dont il parle, ce n'est pas assister à des réunions. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'heures que vous passez à prier ou à lire la Bible. Les œuvres dont il parle sont celles qui proviennent de la vie divine. Ce sont des actes d'amour pour vos frères et sœurs. Si vous voyez que votre frère ou votre sœur a besoin d'aide et que vous ne fassiez rien, vous n'avez pas une foi biblique. Éphésiens 4, versets 25 et 26. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Qu'il travaille de ses mains. Pourquoi? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Telle est l'éthique vis-à-vis du travail dans le Nouveau Testament. Que nous ne travaillons pas pour remplir nos propres besoins seulement, mais aussi ceux des autres. C'est une toute autre conception du travail. Le Nouveau Testament voit l'Église comme une famille qui prend soin de ses membres. Cela non seulement sur le plan spirituel, mais aussi physiquement et financièrement. De la même manière qu'une famille dans le physique s'occupe de ses membres. D'ailleurs, en lisant le début du livre des Actes, vous verrez que l'Église portait les fardeaux des frères et sœurs les plus faibles. Les saints portaient les fardeaux des frères financièrement dépourvus. Ils s'occupaient les uns des autres. Ils mettaient leur argent en commun. Ils se considéraient comme étant une famille étendue, une communauté. C'est ce que dit Paul aux chrétiens de la Galatie. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, c'est la loi de l'amour qui est inscrite sur le cœur de tout chrétien. Si donc vous appartenez à une église qui ne s'occupe pas des besoins des saints, et il ne s'agit pas simplement de verser de l'argent dans un fonds bénévole pour secourir des gens que vous ne connaissez même pas, vous ne vous mettez pas vraiment en pratique le principe biblique de la famille. La vision de la famille des chrétiens du premier siècle était simplement celle-ci. Mon frère en Christ a besoin de quelque chose. Puisque nous sommes une famille et que nous sommes frères, je vais chercher à savoir ce dont il a besoin. Je vais lui apporter de l'aide parce que nous sommes frères. Tous les membres prennent soin les uns des autres. C'est un aspect fondamental de la famille et c'est ce que doit faire l'Église. On disait de l'Église primitive que son réseau de soins les uns pour les autres était l'une des trois influences les plus puissantes de l'Empire romain. Les non-croyants disaient d'eux, voyez comme ils s'aiment. Regardez l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Pourquoi? Parce qu'ils s'occupaient les uns des autres. Ils considéraient leurs enfants comme les enfants de l'Église. Il n'y avait pas d'individualisme parmi eux. Ils s'aimaient. Ils s'occupaient des besoins des autres membres de l'Église. Ils s'entraidaient les uns les autres. Dans l'Église primitive, on n'avait pas besoin d'assurance. Leur assurance était l'Église, le peuple de Dieu. Et c'est cela que Dieu cherche à rétablir aujourd'hui parmi les groupes de croyants qui ont vraiment eu la vision de l'Église comme famille. Il existe de telles églises encore de nos jours, mes frères, mais elles sont très rares et elles diffèrent de tout ce que vous avez pu voir jusqu'ici. Un dernier passage, Paul dit qu'il doit y avoir une égalité parmi les membres de l'Église, parce que l'Église est une famille. Ceux qui ont donnent à ceux qui n'ont pas, et ceux qui n'ont pas reçoivent de ceux qui ont. Bien sûr, cela soulève un grand nombre de questions et de problèmes, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que comme l'Église est une famille, elle prend soin de ses membres. Les saints prennent soin les uns des autres. Grand 4, les membres ont de l'affection les uns pour les autres. Le deuxième aspect, c'est que parce que l'Église est notre famille, est une famille, les membres se reçoivent avec affection. Quand vous voyez votre père ou votre mère ou vos enfants, vous contentez-vous de les saluer? Dites-vous simplement bonjour ou vous embrassez-vous? Dites-vous à vos enfants que vous les aimez et vous disent-ils qu'ils vous aiment? Avez-vous des mots d'affection les uns pour les autres? Eh bien, si vous êtes une famille qui fonctionne bien, la réponse devrait être oui. Il en est de même dans l'Église, parmi les frères et les sœurs, parce que nous sommes une famille. Regardons ensemble ce passage. Recevez-vous avec un saint baiser. C'est ce que vous voyez là, c'est une preuve d'affection. Il y a une branche de la sociologie appelée proxémics. Proxémics consiste en l'étude de la distance de confort entre différentes personnes selon leur degré d'intimité. On distingue les distances personnelles, intimes, sociales et publiques. La distance intime, c'est environ 30 cm. Si quelqu'un se rapproche trop de vous, vous serez assez mal à l'aise. Supposons par exemple que vous vous retrouviez dans l'espace restreint d'un ascenseur avec une personne que vous ne connaissez pas. Que se passe-t-il? Vous évitez de croiser son regard, vous regardez ailleurs car vous êtes gêné. Eh bien, ne devrions-nous pas permettre à nos frères et sœurs en Christ d'empiéter sur notre distance intime? Ne devrions-nous pas nous embrasser? Je sais que certains pratiquent le saint baiser. Je ne cherche pas forcément à le promouvoir, mais en tout cas, cela met en avant un principe important. Si nous vivons comme la famille de Dieu, nous aurons de l'amour les uns pour les autres. Et cet amour se manifestera par des gestes d'affection, de différentes manières, suivant les personnes. Le corps de Christ se montre de l'affection physique parce que c'est une famille. Par contraste, une famille dysfonctionnelle ne montre pas d'affection envers ses membres. Les parents ne touchent pas les enfants. Les enfants manquent d'amour et ne se sentent pas acceptés. On n'y échange pas de paroles d'amour. Cette famille est dysfonctionnelle. C'est à peine une famille. Cinq fois Paul a exhorté les églises à s'accueillir avec un saint baiser. Cinq fois. Dans l'église, si elle vit comme une famille, les membres manifesteront leur affection les uns pour les autres. Cela peut être un simple contact physique. Quand ce frère a prié, il m'a mis la main sur l'épaule. C'est un témoignage d'attention et d'intérêt. Vous voyez, c'est mon frère. Il peut le faire. Il peut entrer dans ma bulle, mon espace vital, et cela ne me dérangera pas parce que c'est mon frère. Le point que je souligne, c'est que si vous pouvez le faire dans votre famille naturelle, alors vous pourriez aussi le faire dans votre famille spirituelle. J'ai observé que tous les groupes de croyants qui deviennent sincèrement une communauté, une famille étendue comme Dieu l'a appelée à être, se montrent des signes d'affection physiquement, spontanément et naturellement. Cela se voit, c'est réel. Et en abordant ce sujet, je vous invite à le creuser jusqu'au bout, à considérer que si mon Église ne fait pas ces choses, vous pouvez finir la phrase. Dans l'assemblée, vous mentionnez souvent les familles dysfonctionnelles, le fait qu'ils ne s'approchent pas les uns des autres, qu'ils ne se disent pas qu'ils s'aiment. Je pense que Satan est fortement à l'œuvre dans nos cultures dans ce domaine. En effet, les études montrent qu'un bébé qu'on ne touche pas ou qui ne reçoit pas de signe d'amour se laissera mourir. Nous avons besoin d'être touchés et aimés. Alors Satan s'arrange pour que dans notre culture, nous n'ayons plus de contact les uns avec les autres. À l'exception du mauvais côté de la chose, le toucher sensuel. Cela, il nous y incite même. Tout à fait. Laissez-moi vous donner un exemple pour ce bébé qui se laisse mourir si personne ne le touche. Pensez à un nouveau chrétien qui entre dans l'église. Comment sera-t-il accueilli dans notre Église moderne? On lui dira: très bien, voici notre kit du parfait disciple. Lisez ceci, voici nos vidéos. N'hésitez pas à participer à nos cours d'initiation et n'oubliez pas le service du dimanche. Personne ne le prend à part, ne l'accompagne, ne le nourrit spirituellement. Alors que se passe-t-il? Bien souvent, il meurt spirituellement et il retourne dans le monde, parce que souvent, il ne trouve plus d'amour et se sent mieux accepté dans le monde que dans l'Église. Il trouve plus d'amour et se sent mieux accepté dans le monde que dans l'Église. Grand 5. Les membres passent du temps ensemble. Passons au troisième point. Parce que l'Église est une famille, les membres prennent du temps pour se connaître. Ils passent du temps ensemble, en dehors des réunions formelles. Dans une famille dysfonctionnelle, et je le vois dans mon métier d'enseignant, les enfants ne connaissent même pas leurs parents, et les parents ne connaissent pas leurs enfants. Et il en est de même entre les frères et les sœurs. Ils vivent sous le même toit, mais ils vivent des vies indépendantes, chacun allant dans une direction différente. Les seuls moments qu'ils passent ensemble sont ceux qui ont été planifiés. Bon, nous devons aller au mariage de tante Joséphine. Alors, à cette occasion, ils seront tous ensemble. Mais après tout cela, ils ne se voient pas de la semaine. Souvent, ils ne mangent même pas ensemble. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que les relations sont très limitées si elles ne se construisent que lors de telles réunions. Mais que faites-vous de vos semaines? Vous rencontrez-vous pendant la semaine? Est-ce que vous prenez du temps pour discuter? Partagez-vous vos repas? Invitez-vous vos frères et sœurs chez vous pour avoir l'occasion de les connaître plus personnellement? Regardons un passage du livre des Actes des Apôtres pour essayer de clarifier cet aspect de l'Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. On ne dirait pas qu'ils ne se retrouvaient que lorsqu'il y avait des réunions planifiées. Il me semblerait plutôt que les vies de ces premiers croyants étaient pleines d'interactions les unes avec les autres. La Bible dit qu'ils se rencontraient quotidiennement. Dans Hébreux 3, ils sont exhortés à s'encourager jour après jour. Et pourtant aujourd'hui, dans de nombreuses églises modernes, le seul moment de communion fraternelle que vous pouvez avoir sont quelques instants quand le pasteur dit: donnez-vous la paix du Christ, et peut-être quelques minutes supplémentaires en sortant sur le parking. Les rassemblements de l'Église, frères et sœurs, ne vont pas plus loin. Nous pouvons avoir un frère ou une sœur qui est en train de se débattre avec un problème, qu'il soit sentimental, spirituel, physique ou financier, et vous ne le savez même pas, à moins de passer un peu de temps avec la personne et de chercher à la connaître. En fait, la vérité, c'est que trop souvent, nous, chrétiens occidentaux du XXe siècle, nous avons peur de l'intimité. Nous aimerions nous cacher. C'est pourquoi tant de personnes ne sont pas intéressées par les églises de maison. Il est plus facile de rester assis sur un banc, de contempler le dos de celui qui est devant vous pendant 2 heures, puis de repartir. C'est beaucoup plus facile, ça engage beaucoup moins. Mais la famille du Seigneur est une famille. Ce n'est pas un théâtre. Et dans une famille, dans une véritable famille bien équilibrée, chacun est au courant de ce que font les autres. Papa a des soucis au travail, on prie pour lui. La sœur a des problèmes à l'école. Le frère vient d'avoir une augmentation à son travail. Maman s'inquiète pour sa tante Josiane. On est au courant de ce qui se passe dans la vie des autres. Comment pouvons-nous vraiment vivre toutes les exhortations du Nouveau Testament qui parlent de les uns ou les autres si l'Église dont nous faisons partie ne fonctionne pas comme une famille? Il y a plus de 50 exhortations qui utilisent l'expression les uns les autres dans le Nouveau Testament. Aimez-vous les uns les autres? Honorez-vous les uns les autres? Donnez les uns aux autres, partagez les uns avec les autres, soyez en paix les uns avec les autres. Comment pouvons-nous vivre cela si nous ne connaissons même pas les gens avec qui nous nous rassemblons? Ceci n'est pas une famille. L'Église, selon le Nouveau Testament, est comme une famille étendue. Elle est unie. Elle est profondément relationnelle. C'est le centre de l'Église du Nouveau Testament. Et c'est cela que Dieu veut restaurer parmi nous ces jours-ci. L'Église n'est pas orientée réunion, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pendant les réunions organisées que l'on partage avec les frères et sœurs. Ce n'est pas ainsi que l'Église de Jésus-Christ fonctionne. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Je vous laisse le soin d'étudier le texte par vous-même. Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous. C'est connaître intimement. Malheureusement, la plupart des chrétiens connaissent à peine leurs pasteurs dans les églises contemporaines. D'ailleurs, beaucoup de pasteurs ont appris de ne pas trop s'approcher des gens. On leur apprend, s'ils s'approchent trop des gens, que cela atténue leur autorité. Frères et sœurs, une telle idée viole les principes du Nouveau Testament. C'est même totalement étranger au Nouveau Testament. Sans même parler de l'idée du pasteur, qui n'a d'ailleurs pas d'équivalent dans l'Église au premier siècle. Ceux qui travaillent parmi vous sont des serviteurs. C'est ça un ministère. Savez-vous que le mot ministre signifie serviteur? Les ouvriers chrétiens, par exemple, sont des personnes qui connaissent les brebis personnellement et intimement. Ils ne s'isolent pas dans leurs activités. Et ce qui est le plus important, les frères et sœurs les connaissent. Un frère m'a raconté une histoire qui m'a intriguée. C'est un frère que je connais. Il était un pasteur baptiste et c'était après le service du dimanche. Il mangeait à la cafétéria. Ce pasteur était très évangélique. Il partageait l'évangile avec chaque personne qu'il voyait. Il y avait une femme devant lui qui faisait la queue. Il la regarda et dit: Bonjour, comment allez-vous? Connaissez-vous Jésus? Elle répondit: Oui, bien sûr, je l'aime beaucoup. Le pasteur ajouta: Vraiment? C'est merveilleux. Qui est votre pasteur? Elle répondit: C'est vous. Cette histoire caractérise la triste situation de la plupart des églises modernes. Cependant, je ne suis pas là pour taper sur le dos des pasteurs. Je suis en train de relever un fait, c'est que l'Église est décrite dans le Nouveau Testament comme étant une famille. Les membres se connaissent et connaissent ceux qui les servent. Grand 6, l'Église grandira. Quatrièmement, l'Église est une famille, donc elle grandira. Toute famille normalement constituée a tendance à s'agrandir. Et de quelle façon cela se passe-t-il? Souvenez-vous de la création de la première famille humaine. De quelle façon s'est-elle agrandie? Dieu a dit à Adam: Soyez féconds et multipliez. Les familles se multiplient, elles donnent naissance à des enfants, elles s'en occupent, elles les enseignent, puis elles les envoient, elles multiplient et elles s'agrandissent. Il est intéressant de remarquer qu'il y a deux façons par lesquelles l'Église s'agrandit. L'une de ces façons est la division, je parle de l'agrandissement en nombre, c'est-à-dire que si la communauté devient trop grande, elle forme deux communautés, n'est-ce pas? Il s'agit de la multiplication, c'est une bonne chose. C'est de cette manière que les cellules se multiplient. Nos corps s'agrandissent par la division. Les cellules s'agrandissent et se multiplient par la division. Une autre façon, bien sûr, est de donner naissance à des enfants spirituels, c'est-à-dire amener quelqu'un dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance et les ajouter à la famille de Dieu. Si vous ne comprenez l'Église qu'au travers de la métaphore du corps, vous aurez du mal à comprendre le concept de l'accroissement par la division. Pourquoi? Parce que le corps ne grandit que vers le haut. Puis lorsqu'il atteint une certaine hauteur, le corps humain s'arrête de grandir. S'il continue, c'est un agrandissement horizontal. Le corps grossit, n'est-ce pas? Il n'en est pas ainsi dans la famille. La famille se reproduit. Elle s'agrandit par la multiplication. La division pour une famille n'est pas valable dans ce sens-là. Des enfants naissent, la famille s'agrandit, les enfants partent et donnent naissance à d'autres enfants, et ces enfants partent à leur tour pour former une famille. La famille s'agrandit par la multiplication. Dans le corps, la division s'appelle l'amputation ou le démembrement. Vous coupez un morceau de votre corps et il meurt. Et voilà pourquoi il est important de regarder toutes les métaphores qui décrivent l'Église. Chaque métaphore nous montre un aspect différent que l'on ne verrait pas si l'on s'attardait sur une seule métaphore. Les familles dysfonctionnelles ne peuvent s'agrandir. Je voudrais vraiment souligner ceci. Si le Seigneur travaille parmi vous, il y aura de l'accroissement. Ce ne sera peut-être pas un accroissement immédiat. Cela prendra peut-être du temps. Mais si l'Église est vivante, alors il y aura de l'accroissement aussi bien interne qu'externe. À ce sujet, j'aimerais dire deux mots à propos de la génération d'aujourd'hui. Cette génération, particulièrement les jeunes, ont un grand manque d'amour et d'acceptation. Voilà déjà longtemps que la culture américaine a détruit la famille étendue. Aujourd'hui, la cellule familiale doit se débrouiller toute seule. Ajoutez à cela l'accroissement de l'égoïsme dans notre société et la famille est en danger de disparition. Par conséquent, beaucoup de nos jeunes ont grandi sans parents. Les parents ont soit négligé, soit maltraité leurs enfants. Et il y a beaucoup de douleur. Ce qu'ils recherchent, c'est donc d'être acceptés et aimés. Ils cherchent à être acceptés au sein d'une famille. Ainsi, les églises qui vivent comme une famille grandiront spirituellement. Elles attireront naturellement les jeunes. Les églises qui fonctionnent comme des entreprises mondaines ou des corporations financières, où les membres sont détachés les uns des autres, ne pourront pas garder les nouveaux convertis. Ils viendront, mais ils finiront par mourir spirituellement, par manque de nourriture et d'amour relationnel. Je vous le dis, les gens de notre ère postmoderne sont à la recherche de famille. Ils recherchent un groupe de personnes sincères qui les aiment et qui ont de l'attention les uns pour les autres. Et ils peuvent déceler très rapidement ce qui n'est pas authentique. Ils ont tiré leur expérience des mauvais exemples qu'ils ont vus. Et lorsqu'ils voient un groupe de personnes qui se donnent réellement les unes pour les autres, qui s'aiment de façon inconditionnelle, ils y seront attirés. Cela répondra aux cris les plus profonds du cœur humain, l'expression familiale de l'Église. Grand 7, les membres partagent la responsabilité. Enfin, cinquièmement, puisque l'Église est une famille, chaque membre a des responsabilités distinctes vis-à-vis des autres et exerce ses responsabilités pour le bénéfice de toute la famille. Prenons le cas d'une famille humaine. Chaque personne a une responsabilité différente. On ne demande pas aux enfants d'aller au travail, n'est-ce pas? On ne demande pas aux parents d'obéir aux enfants. Chacun a un rôle précis, le père, la mère, les enfants et le nouveau-né. Et tous travaillent ensemble pour le bien-être de la famille. Eh bien, c'est pareil dans la famille de Dieu. 1 Jean 2, versets 12 et 13. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Remarquez que Jean utilise le langage de la famille. Il parle au Père, aux jeunes gens et aux enfants. Il leur parle de choses différentes. Nous voyons donc ici que dans la maison de Dieu, il y a un ordre. Chaque membre a la responsabilité de fonctionner d'une façon bien précise. Dans le cadre du corps, chaque membre a une fonction. Les yeux, les oreilles, les mains, tous fonctionnent. Mais ici, nous voyons le fonctionnement dans le cadre de la famille de Dieu. À mon sens, dans l'Église, chacun doit porter sa responsabilité. Si chaque membre ne le fait pas, alors l'Église est déformée, elle n'est plus la famille de Dieu. Pensez à une famille humaine. Dans une famille dysfonctionnelle, les membres ne portent pas chacun leur propre responsabilité. Le père néglige ses enfants, ou alors il profite d'eux. Il n'enseigne pas ses enfants, il ne les guide pas et ne les conseille pas. Les pères dysfonctionnels ne font pas ces choses. Souvent, la mère ne fait pas non plus son travail. Peut-être qu'elle s'occupe trop du père et n'a donc pas assez de temps pour les enfants. Les enfants dans une telle famille se rebellent contre leurs parents. Ils prennent autorité dans la maison, ils sont insolents. Par conséquent, il y a un déséquilibre dans la famille. Eh bien, dans la famille de Dieu, il y en a qui sont comme des pères. Ce sont les frères plus âgés qui connaissent le Seigneur depuis plus longtemps. C'est leur rôle et leur responsabilité de conseiller les jeunes frères et d'être un exemple pour eux. Ils apportent de la sagesse dans l'Église. Et je vous le dis, dans une famille, ces responsabilités ne découlent pas d'un poste qui est à remplir. Elles découlent de la vie. C'est tout à fait organique, vital. Ça découle d'une relation vitale. Malheureusement, puisque beaucoup d'entre nous sommes issus d'un enseignement au sein de l'Église institutionnelle, nous avons dû passer des heures assis sur un banc à écouter des sermons. Nous sommes devenus si passifs que les pères ne remplissent pas leur rôle au sein de l'Église. Ils ne reconnaissent même pas leur utilité. Mais dans l'Église du Nouveau Testament, les pères dispensent de la sagesse aux jeunes hommes et leur fournissent un exemple de comportement. Les mères enseignent la sagesse aux jeunes femmes, leur apprennent à être de bonnes épouses et de bonnes mères. À ce sujet, il est écrit: Dis que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Les enfants apportent du zèle dans l'Église. Les jeunes hommes apportent de la vigueur et de la force, mais ils ont besoin de la stabilité des plus anciens. Chacun apprend quelque chose de l'autre. Le nouveau-né a besoin de soins. Ils ont besoin que quelqu'un s'occupe d'eux. Spirituellement, quelqu'un doit leur donner à manger, changer les couches et les laver. Tragiquement, les institutions que nous fréquentons et qui portent le nom d'église ne sont pas des familles. Existe-t-il des églises qui vivent de cette façon? Bien sûr, mais on ne peut pas vivre en famille dans la structure de l'église contemporaine parce que la structure institutionnelle empêche la nature familiale de l'église de s'exprimer. L'église ne peut réellement exprimer cette dimension que lorsqu'elle s'affranchit de ses organismes. Je résumerai ainsi. L'Église, telle qu'elle est dans le Nouveau Testament, est une famille qui est issue de la foi d'Abraham, dont Dieu lui a fait la promesse de multiplier sa famille jusqu'aux extrémités de la terre. De ce fait, elle propose l'interdépendance plutôt que l'indépendance, l'unité plutôt que la fragmentation, la participation au lieu du spectacle, le contact plutôt que l'isolement, le corps plutôt que l'institution, les relations plutôt que le programme, les liens plutôt que l'indifférence. C'est regrettable, mais les institutions qui nous entourent et qui fonctionnent comme des familles déséquilibrées sont acceptées comme étant normales, et nous avons le sentiment que, eh bien, on n'y peut rien, il n'existe rien d'autre. Ces institutions empêchent de véritables relations familiales de se développer. Mais le fait est que le Seigneur suscite à travers le monde entier de petits groupes de personnes qui se rassemblent comme une famille. Et c'est eux qui vivent ce que le Nouveau Testament décrit comme la maison ou la famille de Dieu, car la famille est le fondement de toute société humaine. Deuxième partie, la famille selon le plan de Dieu. Une famille qui fonctionne selon le plan de Dieu est une famille équilibrée et bénie. La famille est une institution essentielle pour Dieu. La Bible nous montre que Dieu a toujours attaché une importance capitale concernant la famille. De nos jours, la famille est une institution en crise et Satan a fait de ses priorités de la détruire par n'importe quel moyen. Nous trouvons le mot famille dans toute la Bible. Elle est mentionnée 325 fois. Donc c'est un sujet très important pour notre Père céleste. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 28, verset 14. Beaucoup plus tard, bien des années après, Dieu renouvelle cette promesse. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. La famille a été créée par Dieu. La Bible est claire à ce sujet. C'est lui qui créa l'homme et la femme. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Une seule chair veut dire une famille. Tout ce que Dieu a créé a un but. La famille n'a pas été créée par hasard. La Bible nous montre sur ses paroles le pouvoir et la valeur de la famille. Genèse 2, versets 27 et 28. Et Dieu créa l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu. Il les a créés mâle et femelle. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit: Fructifiez et multipliez et remplissez la terre et soumettez-la et assujettissez-vous les poissons de la mer et les oiseaux des cieux, et tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Ici, nous constatons que la famille a un rôle prépondérant. Fructifier, multiplier, soumettre, assujettir. Fructifier, c'est produire par des récoltes. Produire des résultats avantageux, des bénéfices. Multiplier, c'est augmenter le nombre humain. Soumettre, c'est réduire, ranger sous la puissance, sous l'autorité, mettre dans un état de dépendance, subordonner. Assujettir, c'est rendre sujet, soumettre à sa domination, maintenir sous sa domination, astreindre, obliger à faire habituellement et fréquemment quelque chose, arrêter une chose de telle sorte qu'elle soit stable et sans mouvement. Nous pouvons conclure que la famille a un rôle essentiel sur la terre. Elle détient une capacité matérielle, physique et spirituelle. Elle est le cœur de l'énergie de la société, car le cœur de la famille de Dieu, c'est la vie éternelle, relationnelle, image de la Trinité divine. La famille, selon la pensée de Dieu, est la cellule indispensable au bon développement d'une société équilibrée. Si on devait définir un ordre de priorité dans la vie du chrétien, je dirais sa relation avec Dieu, sa relation familiale, sa relation d'église et sa relation avec le monde. La famille est une institution divine dans le but d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Elle doit sa nature divine à l'image de la famille céleste. Le Père, masculin, le Fils et le Saint-Esprit, mère féminine, chrétien ou pas, que vous le vouliez ou non, toutes les familles de la terre sont issues de lui. Éphésiens 3, versets 14 et 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Vous comprendrez pourquoi Satan met tant d'énergie pour détruire les familles de la terre. Parce qu'il a compris l'importance capitale et le pouvoir puissant de la famille. C'est un point stratégique pour livrer bataille contre l'œuvre de Dieu. Dieu a créé la famille. Le diable rusé va chercher à la détruire. Voici les étapes de cette œuvre destructrice. Rupture entre l'homme et Dieu. Adam et Ève se cachent, c'est Dieu qui les cherche. Genèse 3, versets 8 à 10. Rupture entre les époux. Les paroles d'Adam parlant de son épouse sont inconvenantes. Genèse 3, verset 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi. » Il parle de sa femme comme d'une étrangère qu'il doit subir. Rupture entre les deux frères. La jalousie s'installe, puis la haine qui finit par un meurtre. Genèse 4, verset 8. Si les parents ne s'entendent pas, comment vont se comporter les enfants? Rupture entre l'enfant et ses parents. Caïn s'éloigne définitivement pour aller vivre sur une terre éloignée. C'est l'éclatement de la famille. Genèse 4, verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Seule une famille qui vit en communion avec Dieu pourra vivre en harmonie et en union. Dieu veut rétablir la famille selon son modèle divin. Sur les 10 commandements, 6 peuvent se référer à la famille. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne prononceras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas. Ceci démontre que Dieu attache une importance fondamentale à la famille. Le rôle de chacun dans la famille chrétienne. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Petit 1, les épouses. Pourquoi commencer par les conjointes? La raison pour laquelle la femme passe en priorité, c'est parce qu'elle est le point d'attache de l'homme qui quittera son père et sa mère, selon Genèse 2, verset 24, afin de fonder une famille avec son époux. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains, déclare Proverbe 14, verset 1. En effet, l'épouse a une grande responsabilité dans l'équilibre familial. Sa soumission à son mari est une preuve d'amour envers ce dernier, de même que l'Église est soumise au Seigneur. Et tout cela dans la joie d'en récolter le bon fruit. C'est par sa bonne conduite que la femme chrétienne se distingue de la païenne. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, dit Éphésiens 5, verset 23. De cet équilibre dépend l'harmonie du mariage, car deux capitaines ne peuvent diriger un même navire au risque de faire naufrage. Petit 2, les maris. Comment peuvent-ils aimer leur épouse? Les époux ont l'obligation d'honorer leur compagne, ordonne 1 Pierre 3, verset 7. Car il est écrit dans Proverbe 18, verset 22, Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Raison pour laquelle le mari doit considérer sa femme comme une bénédiction reçue du Père céleste. En effet, la femme est une aide semblable à l'homme, affirme Genèse 2, verset 18. Le mari doit aimer son épouse comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, révèle Éphésiens 5, verset 28. Une épouse n'est pas la bonne à tout faire, mais au contraire une compagne à chérir tendrement. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois-en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour, recommande Proverbe 5, versets 18 et 19. Une épouse qui jouit d'une telle attention fera le bonheur de son mari afin de garder cette place de choix qu'elle occupe dans son cœur. Troisièmement, les enfants. Le mot d'ordre, c'est obéir aux parents pour être béni. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, commande Exode 20, verset 12. Ainsi, le Seigneur ordonne d'honorer les parents, car ils le méritent. L'obéissance aux parents est une source de bénédiction pour les enfants, d'où l'importance vitale pour les enfants d'honorer leurs parents afin d'être heureux et de vivre longtemps sur terre, rappelle Éphésiens 6, verset 3. En effet, un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère, certifie Proverbe 10, verset 1. Aussi, les parents ne doivent pas irriter leurs enfants et ou les maltraiter, mais au contraire les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur, recommande Éphésiens 6, verset 4. Instruis l'enfant sur la voie qu'il devra suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, conseille Proverbe 22, verset 6. En outre, la famille chrétienne doit avoir l'habitude de prier ensemble pour maintenir son unité et résoudre les éventuels malentendus à la lumière de la parole de Dieu. La force d'un couple chrétien, c'est de réaliser que leur union conjugale est aussi une union spirituelle, afin de prier et de s'entretenir du royaume de Dieu ensemble. Enfin, la famille chrétienne sert Dieu ensemble dans sa foi, dans son témoignage, dans ses engagements et ses actions au service du prochain, dans sa vie d'église et dans le ministère. Laissez-moi vous dire par expérience qu'un pasteur a besoin du soutien de son épouse et de ses enfants. Dans une famille où les parents et les enfants s'efforcent de vivre en commun leur vie spirituelle, c'est l'assurance d'une vie familiale équilibrée et harmonieuse, de la sérénité du couple, un atout supplémentaire pour la bonne éducation des enfants et un témoignage crédible pour le voisinage. Fin du cours. Questions sur le cours. Première question. Selon le cours, quels sont les cinq aspects de la famille de Dieu? Expliquez-les en donnant des versets bibliques. Deuxième question. Selon ce cours sur la famille, quel est le rôle de l'homme en tant que mari et père, de la femme en tant qu'épouse et mère, des enfants vis-à-vis de leurs parents? Expliquez-moi le rapport de l'autorité avec la soumission. Est-ce que l'autorité de l'homme et celle de la femme sont différentes ou identiques? Pourquoi? Troisième question. Pourquoi Dieu a-t-il établi la famille comme métaphore centrale pour l'Église? Expliquez-moi les quatre murs protecteurs de la famille de Dieu dans Actes 2, verset 42. Quatrième question. À quoi sert la famille dans les nations? À quoi sert l'Église en tant que famille dans la création de Dieu? Justifiez vos réponses par des versets bibliques.